La start-up est chaudouillante.
C'est loup, ça.
Start-up chaude comme une baraque à frites, je vous le dis. Et c'est Alex qui a réécouté l'émission d'hier. Sachez que voilà, il n'était pas là hier, donc il a eu la gentillesse de réécouter. Et voici le résultat. Salut Alex, ça va ?
Ça allait.
Ah bon ?
Et puis ce matin, j'étais dans le train en rentrant de ma tournée, j'ai réécouté un petit peu l'émission d'hier. Disons que je suis tombé dans un abîme de perplexité. Déjà toi, tes questions, elles étaient incompréhensibles.
Oui, je me suis pas rendu compte hier.
C'est pas le pire, parce que Guillaume, hein, qui lui, généralement, est plutôt clair, inaudible dans sa chronique.
C'est vrai qu'on a dû avoir un souci technique hier, alors je ne vois que ça.
Moi je suis certain. Et là, alors, la preuve avec Juliette, quand même, la meuf, elle a une voix qui porte, on est d'accord.
Ça c'est peu de le dire. Quand elle rit à Paris, Juliette, elle déclenche un tremblement de terre au Chili, alors.
Voilà, et ben essaye de me traduire son propos. Bon, alors ça, s'il y avait que ça, hein, je parle même pas du choix musical,
c'était...
C'est joli, c'est...
Patrice Petitbon,
c'est pas la couleur France Inter, elle est où la playlist ? Elle est baïonnée en sous-sol ?
Alex, t'as écouté dans le train ce matin ?
Parfaitement, en podcast.
T'avais du réseau ?
Alors, pas des masses, j'ai dû me débrouiller un petit peu. Bon, j'ai pu écouter 2 minutes d'émission, mais ça m'a suffi.
Deux minutes ? Donc c'est ça.
Il en fallait pas plus pour voir que quand je suis pas là, tout part en sucette, heureusement, je suis
dans le dos. Alex, ce que t'as écouté de l'émission d'hier, c'est le sketch.
Le sketch.
Alors oui, parce que tu sais, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre.
Le sketch, on écrit des blagues et puis...
Salut à toi la France Inter, salut à toi le trader, salut à toi le chômeur. Salut à toi, le contrôleur à Pôle emploi qui ne le lâche pas d'un semelle. Voici les 3 informations qui arrivent en fin de droit. Nous sommes en 2018 en Europe et l'Irlande vote aujourd'hui pour dire oui ou non à l'avortement qui pour l'instant est interdit par la Constitution.
Je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder.
Quand nos élus inventent des lois sous le coup de l'émotion ou de la pression de l'opinion, l'avocat se dresse pour rappeler le droit. Il est un garde-fou du politique, sauf bien sûr quand on a la chance d'avoir eu un président qui lui-même est avocat.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Parmi les préjugés tenaces de notre société, il existerait un a priori sur nos aînés. Slate se fend d'un article sociologique intitulé « Pourquoi détestons-nous les vieilles ?» et pourquoi seraient-elles davantage victimes de préjugés que les vieux ?
Comment ça, place aux jeunes ? Non mais ça va pas, non ? Je suis électrifié, je décolle ! Je pète les flammes.
Et lui, que serait-il sans nos charmantes aînées qui vont l'applaudir sur scène ? Allez, vous aurez.
Je crois que vous étiez à deux doigts de parler de ma vie sentimentale. Autour de la table, une belle équipe évidemment pour terminer cette semaine à 17h20. Celle que Charline appelle ma sœur. Et pourtant, comment lui dire que a priori, c'est peu probable. Bonjour Rukyata Ouedraogo.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler ?
Aujourd'hui, on va parler des bons moments que l'on partage avec des vrais amis autour d'un barbecue.
Très bien, 17h30, celle qui risque de finir comme marabout à Barbès, puisqu'elle parle aux morts et qu'en plus elle leur fait dire ce qu'elle veut. C'est Christine Grosalès, bonjour.
Bonjour, grand scoop, un retour notamment de Jacques Chancel sur France Inter. Oui, absolument, il a d'ailleurs une question à vous adresser à Charline et à Alex.
Beaucoup s'étonnent de ce que, au terme de votre évolution doctrinale, vous soyez devenu marxiste et gauchiste. Ont-il raison de s'étonner ?
Probablement. Surtout pour moi. Et à 17h40, on terminera la semaine avec elle, comme un bon digestif peut rattraper un dîner. Ma foi, très moyen. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, Alex. Vous savez que Philippe Ross est mort cette
semaine.
La semaine dernière, c'était Tom Wolfe. Heureusement, j'ai découvert un écrivain qui, pour moi, écrit presque aussi bien que Philippe Ross, mais il est mort aussi.
Merci déjà. Mais le vrai pouce café, chaque semaine, à 17h55, c'est le pouce chansonnette de cette émission. l'émission, Frédéric Fromet viendra nous faire saigner les oreilles.
Et je me tourne vers celle qu'on a invitée à s'installer dans notre open space. Lorsque vous étiez enfant, vous découvrez en cachette les photos de reportage de votre père qui a notamment couvert l'ouverture des camps de concentration. Vous décidez alors de consacrer votre vie à vos engagements. Vous devenez avocate au barreau de Paris. Vous militez pour l'abolition de la torture, pour l'amélioration des conditions de détention des prisonniers en Afrique, contre l'excision, contre le mariage forcé. En novembre 2015, alors que vous déposez une fleur devant le Bataclan, une caméra vous interpelle. Et le message d'apaisement que vous délivrez, en faisant notamment référence à « Paris est une fête » d'Hemingway, déclenche un mouvement national d'empathie envers vous. Ce jour-là, vous endossez un peu malgré vous ce statut de figure tutélaire populaire, de sage parmi la nation. Vous êtes, je vous laisse nous dire, vous êtes...
Daniel Merian.
Salut.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Daniel Merian.
Merci.
Mais toute la France est ravie que le hasard vous ait mis sur notre route. Donc effectivement, c'est un jour une caméra de BFM, trois jours après les attentats.
Conneries, hein, ces gens-là.
Les attentats, alors que vous déposiez une fleur, toute la France vous a vu avec votre message d'apaisement, de paix et cette référence à l'ouvrage d'Hemingway. Daniel Merian, ce statut, vous l'avez endossé, vous ne l'avez pas fui, vous auriez pu le fuir d'ailleurs. C'est assez peu commun finalement que la population se trouve une figure un peu tutélaire comme ça, chez une passante, chez une citoyenne. Est-ce que ça, c'est symptomatique aussi de notre époque ou plutôt que de chercher une figure parmi un politique, les écrivains c'est toujours le cas, mais aujourd'hui on est dans une société de l'image, donc de chercher quelqu'un qui vient de parmi nous, du peuple quoi.
J'avais pas de raison de fuir cette notoriété parce que j'ai constaté à mon grand étonnement un immense mouvement de fraternité. Déjà, le jeune musulman Karim Boukarcha qui m'envoie, qui me cherche, qui me trouve et qui m'envoie un magnifique bouquet et qui se dit je vais me le faire rembourser, qui lance une cagnotte, il espérait 200 euros. En un mois de temps, plus de 1800 donateurs m'ont offert plus de 17 000 euros de fleurs que j'ai pu distribuer à mes associations. Donc j'aurais tort de me plaindre de cette notoriété. Et puis sur mon boulevard, puisque j'habite boulevard Richard Lenoir à deux pas du Bataclan, tous les jeunes venaient vers moi, vu mon grand âge, me demandaient la permission de m'embrasser, ensuite de faire un selfie. C'était très mignon parce que tous ces jeunes hommes me disaient « c'est pour ma femme, c'est pour ma soeur, c'est pour ma mère, c'est pour ma fille ». C'était avec eux que je faisais la photo. Mais c'était touchant et puis il y avait vraiment pas que de jeunes musulmans à venir me dire « merci madame pour ce que vous m'avez dit ». Donc moi qui n'ai que le mot « fraternité » à la bouche, je dois dire que j'avais pas tellement l'intention de devenir célèbre, puisque quand j'étais enfant, mon père étant archi célèbre, je détestais de sortir avec lui parce
grand
que
journaliste.
Tout le monde nous regardait. Je trouvais ça odieux. Je me disais, vivons heureuses, vivons cachées. Ah. Ce que j'ai parfaitement réussi, 77 ans.
Daniel Merian, d'ailleurs, vous transformez cet élan en quelque chose de concret pour aider à changer le monde. Il y a notamment une rencontre intitulée « Autoportrait d'une féminitante ». Rencontre avec Daniel Merian. C'est pour la troisième édition de En scène Simone qui a lieu le 15 juin. Ce sera au Sentier des Halles à 21h15. Puis vous raconterez votre vie, vos combats, etc. Et il y a notamment ce combat avec l'association dont vous êtes présidente, contre l'excision notamment.
SOS Africaine en danger.
Exactement.
Vous savez pourquoi ces jeunes femmes que j'admire beaucoup, dont je suis extrêmement honorée d'être la présidente, elles ont construit très rapidement cette association parce qu'il se trouve qu'à Parcours d'Exil, qui est un centre de soins aux torturés, le docteur Duterte a reçu tellement de jeunes femmes peules, guinéennes, il ne faut pas être peules, qu'il s'est dit si je leur proposais un groupe de parole. Et tout aussitôt, ces femmes qui se sont donc rencontrées alors qu'elles étaient isolées, qu'elles couchaient dans la rue, comme vous savez, parce qu'avant d'avoir une place dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile, on est au 115 tous les jours. Elles ont tout de suite créé cette association et des Africaines en danger, ce sont leurs petites filles laissées au village. Donc vous imaginez ce que sont leurs cauchemars. Et obtenir le statut de réfugié, c'est déjà un combat. Mais alors, faire la procédure de reconstitution familiale quand on a le statut, alors là, c'est pire que tout, parce que nos ambassades violent la loi, comme nos préfectures violent la loi tous les jours, et donc on fait le maximum de difficultés à ces jeunes femmes, au lieu de délivrer immédiatement aux enfants les visas. Donc c'est un combat... extrêmement difficile.
Et il y a un combat que vous partagez avec Rukyata qui est à côté de vous et qui lutte aussi contre l'excision, vous à votre manière dans votre spectacle.
Exactement.
Je demande la route, oui, vous êtes au théâtre du Lucernaire en ce moment et c'est par l'humour et la théâtralité que vous abordez ce sujet.
Effectivement, j'essaie de désamorcer les choses parce que l'excision c'est quelque chose de très fort et qui est difficile en fait pour les gens qui sont excisés. Moi je parle de ça parce que j'ai été excisée quand j'avais 3 ans et j'en parle dans mon spectacle, afin que les gens puissent comprendre que c'est... Voilà, c'est... Exactement. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est vraiment, je suis admirative. Vraiment, je suis en face de vous et j'ai le cœur qui bat fort. Et pourquoi l'excision? Pourquoi vous êtes allée vers ces femmes? Et quel est l'accueil aussi que ces femmes vous ont réservé?
Alors, en fait, je suis avocat. J'ai passé ma vie à défendre les droits humains et il se trouve que j'étais vice-présidente de Parcours d'Exil quand le docteur Duterte a créé ce groupe de parole. Et à l'Assemblée Générale 2013, il nous dit « Ces femmes viennent de créer les statuts de SOS africaines en danger. Elles me demandent d'être leur premier président. Je suis un homme, c'est un petit groupe de femmes, c'est quand même un petit peu surréaliste. » Comme j'ai un tempérament de bélier, je lui ai dit « Oui, Pierre, c'est ridicule, je prends votre place.
» Et bim.
Et voilà.
Alors il est allé me présenter à ces jeunes femmes et je leur ai dit, mesdames, je vais vous dire pourquoi je suis solidaire de votre combat. Et je leur dis, alors elles me regardaient en se disant, elle se fout de nous, cette vieille parisienne bourgeoise. Je leur dis, je suis née sous un régime d'esclavage. Alors évidemment, elles ne me croyaient pas. Et je leur dis, l'honnêteté m'oblige à vous dire que le régime sous lequel je suis né a été aboli précisément l'année de ma naissance en 1938. Mais néanmoins, merci Napoléon, de 1804 jusqu'en 1938, la moitié des Français, les Françaises, ont été interdites de participer à l'activité de la nation puisque nous étions des mineurs à vie et que nous devions obéissance à nos maris et de rester à la maison. Donc, je leur ai expliqué, après, elles étaient extrêmement surprises parce que ces femmes, elles ont trouvé la liberté à Paris.
Oui.
Donc, elles pensaient que pour nous, les femmes à Paris, tout était rose. Oui. Alors, je leur ai dit, c'est pas parce que ça a été aboli, l'incapacité juridique de la femme mariée en 1938, que tout était rose. Et je leur dis, elles étaient très, très étonnées. Je leur dis, je me suis mariée en 1961, je devais obéissance à mon mari. C'est quand même absolument aberrant. Et je leur dis, j'ai eu des enfants en 1962, en 1964. Il était le seul à avoir l'autorité parentale. On est toujours dans un monde de fous. Et je leur dis, finalement, c'est grâce à mai 68 qu'après on a gagné loi après loi jusqu'à ce qu'on atteigne fin 20e siècle l'égalité en droit, pas dans la vie, ça c'est sûr, mais bon, on avance.
En fait,
elles ont eu une réaction
face.
Formidable. Voilà, elles m'ont dit, ben, Madame Merian, si vous les femmes ici en France, vous avez gagné tout ça, nous aussi on gagnera notre combat. Et comme vous savez, voir abandonner l'excision et la polygamie, parce que c'est la polygamie qui fait que... un père vend à un vieux polygame une petite fille pour qu'elle devienne non seulement une esclave sexuelle, mais une esclave économique, puisque c'est la dernière qui arrive dans la cour qui doit servir tout le monde. Donc vous avez par exemple 13 ans, vous n'avez jamais fait la cuisine. Du jour au lendemain, faut cuire du riz blanc pour 50. Vous allez le rater, c'est pas grave, on va vous battre et vous n'aurez pas le droit de manger avec les autres, et ainsi de suite. Et donc vous comprenez que je suis très animée quand il s'agit de défendre ces femmes, parce que c'est la première génération qui se lève pour dire non à la famille, non au village, non au gouvernement, qui sont parfaitement hypocrites, qui pratiquent l'impunité alors qu'ils ont mis dans leur constitution l'interdiction de l'excision, l'interdiction du mariage des mineurs, pratiquent une totale impunité.
Danielle Merian est avec nous, vous l'avez compris, la présidente donc de SOS Femmes Africaines en Danger. Danielle Merian est avec nous jusqu'à 18h.
Travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, eh.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas retravailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la Gande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis. Encore moins me faire taper à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans préoccuper. Au soleil sans préoccuper.
Les Oufris Maracas chantent « J'aime pas travailler », un vendredi, ça tombe bien. C'est Daniel Mérian qui est en notre compagnie aujourd'hui et qui sera le 15 juin au Sentier des Halles à 21h15 pour une rencontre intitulée « Autoportrait d'une féminitante », rencontre avec Daniel Mérian. Et pour l'entourer, Alex.
Oui, si vous permettez juste que je parle aussi de mon association « Hommes de radio en danger ». C'est pour les hommes de radio qui se retrouvent à une table qu'avec des femmes. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus.
Et quelles femmes?
Notamment Rukiata Ouedraogo, Christine Gonzalez et Juliette.
Mal barré. En plus, je pense que l'information étant féminine, l'information est une femme.
À quelle heure s'en va le train?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. En moins de 5h15.
Et on commence par les titres.
Dossier SNCF. La CGT continue la grève et exige une table ronde.
On leur donne une table ronde, on s'en fout, carré, on va gagner vite.
Alors, menacé de mort pendant la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a réclamé au ministère de l'Intérieur un officier de sécurité, mais cette demande lui a été refusée.
À 600 000 voix près, il aurait eu droit au groupe de sécurité de la présidence de la République.
Oui,
de
peau. Des brèves, bien sûr.
Et non, une page culture.
Voilà.
Après 4 années. Et on commence par une éphéméride. Oui.
Aujourd'hui, 25 mai, c'est la journée internationale de l'enfant disparu.
Voilà, on pense à Jordi. Pense à toi. Dur d'être bébé, nous a abandonné.
Passons plutôt à la politique alors. Édouard Philippe a annoncé que l'État va reprendre 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF.
Comme en ce moment, vous êtes en train de remplir vos déclarations d'impôts, il est encore temps de rajouter les cheminots comme personne à charge.
Oh, blague de droite.
J'ai pas fait exprès.
Oui, donc on recommence. On est obligé de recommencer. Édouard Philippe a annoncé que l'État va reprendre 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF.
Par contre, les jeunes pouvaient toujours aller vous la coller avec les 5 euros d'APL.
Blague de gauche.
C'est mieux, je suis moins engagé.
Voilà. Passons à François Ruffin.
Oui, invité ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, il nous a rassuré sur la convergence des luttes à gauche.
Avec Mélenchon, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on bouffe ensemble au resto et tout ça, ça va.
Voilà, les bisous, les poutous, tout ça, ça va. On est bon.
Paris, deux éboueurs interpellés après avoir volé un camion pour déverser des ordures devant le siège de La République En Marche.
Et ça, Français, c'est un coup d'éclat. Réussir à faire chier à la fois La République En Marche et Anne Hidalgo le même jour, c'est très fort. Et apparemment, quelques ordures auraient également été vues devant le siège des Républicains.
Ah
et...
non, ça c'est la sortie du bureau politique.
Ouh la boulette, la boulette. Alors, on passe à l'héritage de Johnny Hallyday.
L'avocat de Laetitia a refusé la médiation.
Oui, enfin, à ce stade, c'est plus un tribunal hein, qu'il faut s'en remettre. Peut-être aller directement à l'ONU. On est un petit peu comme dans le conflit israélo-palestinien.
Mais t'es comparable.
C'est comparable, sûr, parce que David et Laura, ils étaient là avant, mais maintenant, tout appartient à Laetitia, parce que c'est les Américains qui font la loi. Voilà. Donc c'est à peu près comparable.
People toujours.
Alors. Oui, je sais que vous aimez les quiz, Charline.
Oh là là, c'est ma passion.
Alors, attention, on va tous jouer, on va tous jouer. Daniel Gilbert a fait une révélation sur un couple improbable. Alors si vous savez, laissez-nous deviner. Il y a 40 ans, un journaliste français très connu et une star internationale auraient eu une relation. Essayez de trouver. Ici, c'est l'un qui interviewe l'autre pour la sortie d'un film.
C'est un film que les Anglais ont découvert avant nous, The Man Who Fell to Earth. And you play in this movie, you play a part of extraterrestre.
Yes, I think it's an analogy more than anything else.
Qui c'est?
Yves Morosi.
Et David Bowie, figurez-vous.
Non, mais
à
non.
Apparemment, il y aurait eu une relation. Il manquerait plus que j'apprenne qu'Alain Decaux et pécho Freddie Mercury et je vous jure, j'arrête
mais,
tout.
Mais ils parlent même pas la même langue.
Bah, vraisemblablement. C'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire. Mais quoi, Marie-Laure Augry et Boy George,
voilà,
je dis
voilà, on va en tout cas lire ce bouquin de Daniel Gilbert. Page culture.
France Inter. On aime. On aime. On vous en parle.
Mais oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime? Eh bien, le clip des Disruptives, c'est le groupe de Rock En Marche, dont le chanteur et parolier n'est autre que Guillaume Meurice, extrait.
On peut pas tous être nés sous une bonne étoile, avoir fait HEC, l'ENA ou Centrale. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça qu'elle nous plaît. On peut pas tous être Qatari, ni maire de Levallois, paix.
Le reste est sur notre page Facebook. Soutenez Guillaume et cette première chanson des Disruptives, Jalouse.
Et bientôt en live dans Par Jupiter, bien sûr. Merci Alex, demain soir, vous jouez à Cabourg.
Je fais rêver Cabourg demain.
Bonne chance à tous les gens qui habitent Cabourg. Allez, c'est Daniel Mérian qui est en notre compagnie. Daniel Mérian, dont le message nous a tant apaisé au lendemain des attentats du Bataclan. Voici le premier sujet qu'on a choisi de traiter avec vous. Les Irlandais décident aujourd'hui de légaliser ou non l'avortement. La Constitution l'interdit pour l'instant, mais elle autorise les femmes à aller dans un autre pays pour se faire avorter et donc tous les ans plus de 5000 femmes irlandaises partent se faire avorter en Angleterre. Et après on s'étonne que les enfants se posent des questions sur leur venue au monde.
Un jour tu as rencontré une femme, tu l'as regardée, désirée et ensuite aimée. Je suis née d'un plaisir égoïste. Peu à peu j'ai grandi dans cette putain de société où la connerie humaine règne. Mais je suis là, conséquence d'un plaisir qui a été le tien. Et je peux te jurer que si tu avais regardé le foot ce soir-là, tu aurais accompli un acte plus grand que la révolution dont tu rêves. Malheureusement, ce soir-là, ça devait être un film de Chantal Akerman. Moi, j'ai envie de vivre, mon vieux.
Un extrait de Camping Cosmos, grand classique du cinéma belge. Un film de Yann Bucquois qui met ici en scène sa fille, Eve Bucquois, qui a donc été conçue un jour, il y avait Chantal Akerman.
Avec Lolo Ferrari. Oui. Camping Cosmos, peut-être un des seuls.
Daniel Mérian, vous êtes avocate en droit de la famille, féministe, mais aussi catholique. Cette journée de référendum en Irlande doit beaucoup vous interpeller, j'imagine, sur l'aspect demandé au peuple de se prononcer sur cette question aujourd'hui en Europe en 2018.
Ben, j'espère bien que le oui va l'emporter. Je ne désespère pas qu'au 22e siècle, les femmes possèdent leur corps et en disposent elles-mêmes. Hein. Mm-hmm. Oui, je suis catholique. Pour moi, mais j'oblige personne à penser comme moi. Tout le monde pense ce qu'il veut. Pour moi, l'avortement est un crime. Ceci étant, j'ai failli avorter. Car lorsque je portais mon fils, ma fille a eu le bon goût d'avoir la rubéole. J'ai passé les pires journées de ma vie à me regarder sur toutes les coutures pour savoir si les boutons arrivaient. Et je pensais, je ne mettrais pas au monde un enfant aveugle. Par chance pour moi et pour mon fils, nous sommes là tous les deux. Et puis je pense que c'est un véritable scandale que seuls les riches puissent avorter, puisque les riches pourront toujours voyager, que c'est tout à fait lamentable que les pauvres soient obligés de demander des pilules abortives à travers Internet et n'aient aucun suivi. C'est c'est un véritable scandale que l'avortement ne soit pas libre et gratuit. Et mon mari, feu mon mari, à 22 ans que je suis veuve, était directeur de la Mutuelle des Affaires étrangères et il a milité pour que l'avortement soit libre et gratuit, ce qui n'empêchait pas d'être catholique pratiquant.
C'est un cas particulier l'Irlande, parce que vous avez quand même de grandes chances d'avoir un enfant roux. Donc, ça compte.
Bien le mérite pour essayer de ne pas rester là-dessus. Dernière petite question à ce sujet. Est-ce qu'en France, c'est définitivement acquis ou il faut toujours rester quand même vigilant?
Ah, mais les femmes ont toujours à être vigilantes puisque les choses n'avancent que lentement. Quand on obtient une loi rapidement, elle est, je ne dirais pas complètement en déshérence, mais aujourd'hui, avorter en France, c'est de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un hôpital où on puisse le faire. Mmh. Et quand une femme a besoin d'avorter, ben c'est rapide, donc il ne faudrait pas qu'elle ait tant de difficultés.
Donc ce combat-là continue.
Ce combat-là, oui, il se renforce, si j'ose dire, puisque malheureusement, on n'applique pas la loi comme elle devrait être appliquée.
Danielle Mérian est avec nous, présidente notamment de SOS Femmes Africaines en Danger, et qui sera donc au Sentier des Halles le 15 juin à 21h15 pour la troisième édition de En scène Simone. Et ce sera une rencontre intitulée Autoportrait d'une féminitante. Danielle Mérian, à côté de vous, il y a ma sœur.
Yo, ma sœur.
Je suis pas sûr de ça.
Oh là là, vous ne pouvez pas comprendre, oui, Alex. Bah. Alors, tous les jours, c'est la journée mondiale de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la serviette. De la serviette, mes amis. Non, mais j'hallucine, quoi. Alors, moi, je trouve que s'il y a quelque chose qu'on ne célèbre pas assez, c'est les râleurs. Non, parce qu'on dit aux Africains de France, là, assimilez-vous, assimilez-vous. Et voilà, moi, je suis bien assimilée maintenant. Et en tant que bonne Française, je décrète qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des râleurs.
Voilà. Bravo. Ça ira très bien, c'est tous les jours.
On saura faire.
Bah, sur quoi on va bien pouvoir aller maintenant? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé, sur les amis. Je trouve que on ne râle jamais assez sur les amis. Du coup, ils se croient tout permis. Tenez-moi par exemple, une fois j'étais invitée chez des amis à Perpète-les-Oies, comme vous aimez dire ici. Nous, on dit jusqu'à là où le chien est mort, là. Alors, je ne pouvais pas arriver les mains vides, parce que pour moi, l'amitié, c'est sacré. Et donc, je suis allée chez un caviste et j'ai acheté une bouteille de Nuit Saint-Georges. Ma tirelire est morte ce soir-là et mes économies avec. Mais comme je vous le disais, l'amitié, c'est sacré. Toute la semaine, j'ai regardé la bouteille droit dans les yeux en tripotant mon tire-bouchon tout en me disant « Tu ne faut pas que tu la boives, tu ne dois pas la boire, tu ne dois pas la boire. » Pour m'aider, je passais en boucle la chanson de France Gall. Résiste! Alors, le jour J, je suis allée chez mes amis, ma bouteille sous le bras. J'arrive, je sonne, on m'ouvre, je tends la bouteille. Nuit Saint-Georges à servir à 16 degrés, il est à point pour l'apéro. Et là, ils me disent « Ah bah pour l'apéro, on a acheté de la sangria en cubi de 5 litres. » C'était en promo, on en a eu deux pour le prix d'un. Et là, je vois ma bouteille qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne, loin de moi, loin, 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 vers la cuisine. Ah ben, dans ce cas, on l'ouvre pour le repas alors. Mais quand les merguez et chips sont arrivés, il y avait de la bière, le reste de la sangria, une bouteille de velours du Gosier. Sur l'étiquette derrière, c'était marqué « Mélange de vin de la communauté européenne millésime 2018, volume d'alcool 22,5%, s'accorde parfaitement avec des saucisses Naki Herta. » Là, j'ai dit, bon, bah, Nuit Saint-Georges, c'est aussi bien aussi pour le fromage, non?
Oui, il était bon le fromage au moins, Rouquette.
Il n'y a pas eu de fromage, Aline! C'était directement le dessert! Non, mais Bernadette avait fait un cake au yaourt à la fraise qu'on a servi avec de la clairette de Die. Donc, à un moment, pendant le café, alors que mes amis se trouvaient les boyaux avec la gnôle de tonton Alfred, je me suis discrètement éclipsée avec mon sac à main dans la cuisine, dans l'espoir d'aller récupérer ma bouteille de Nuit Saint-Georges, mais elle n'y était pas. Alors, j'étais en train de retourner la cuisine dans tous les sens quand Bernadette est entrée avec le reste de son putain de cake au yaourt à la fraise et elle m'a dit « Mais Rookie, qu'est-ce que tu fais ?» Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai attrapé une poêle, je l'ai frappée à la tête et ensuite, je me suis précipitée sur elle et je lui ai fait bouffer son putain de cake au yaourt à la fraise jusqu'à la dernière minute miette et en hurlant comme une folle. Elle est où ma bouteille? Elle est où ma bouteille? Moralité, quand votre invité ramène une bouteille de vin, ouvrez-la et partagez-la avec lui. Oh, ça fait du bien. Je promets, à la prochaine chronique, je deviens plus sage.
Merci, Rukyata Ouedraogo. On a tous reconnu un petit peu cette situation. On a tous couru après notre bouteille en disant bon.
Parfois, on l'a vu revenir quand on a invité les mêmes gens.
C'est vrai, en plus.
Ça arrive aussi, ça.
Daniel Merian est avec nous jusqu'à 18h. Allez, Noël Gallagher, If Love Is Low. Jupiter en compagnie de Daniel Merian. C'est notre nouvelle héroïne, Daniel Merian. On est ravis que vous soyez avec nous. Et autour de la table, notamment...
Notamment Christine Gonzalez, dites donc.
Eh oui, bonjour.
On a de la grosse info.
Il y a de la grosse info. Yann Moix termine la saison de l'émission. Ouais, ouais. On n'est pas couché. Bon, ça, c'est pas une info. La presse veut absolument savoir qui va le remplacer à la rentrée. Et c'est là que l'info arrive.
Ah.
J'ai du scoop. Oui, il sera mort.
C'est vrai.
Le futur chroniqueur sera mort.
Ah, ouais. C'est une bonne idée.
Mais
ça.
C'est assez audacieux, puis en même temps assez logique, puisque de toute façon, il va se faire assassiner sur les réseaux sociaux. Autant qu'il soit déjà mort. Voilà. Donc, la production dont n'est pas couché m'a mandaté pour les entretiens d'embauche dans l'au-delà, vu que je suis quand même la personne la plus adéquate pour dire ça. J'ai reçu énormément de candidatures. Si ça vous dit qu'on participe ensemble à ce casting.
Oui.
Alors, évidemment, plein de journalistes ont postulé. Jacques Chancel, par exemple, entré.
Pourquoi ne vous présentez-vous pas?
C'est vous qui allez vous présenter d'abord. vous m'avez envoyé une lettre de motivation, même en me citant Victor Hugo. L'espace est un océan. Les univers sont des îles.
Enfin, vous le savez, le bonheur est toujours sur une île. Il doit bien y avoir des îles quelque part.
Oui, enfin, écoutez, soyons concrets. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce poste?
Je ne cherche pas, je trouve. J'ai l'impression que vous, vous trouvez, puis vous cherchez après.
Oui, enfin, si vous pourriez être agréable, s'il vous plaît, ou soit. Donc, on va faire un jeu de rôle. Hein, concret, concret, concret. Je vous mets en situation. Qu'est-ce que vous demanderiez, par exemple, à un invité, Alex Vizorek? Vous lui demanderiez quoi, Alex?
Vous n'avez jamais trompé la femme avec laquelle vous étiez?
C'est
une bonne question.
Jacques Chancel, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Je vais rejeter votre candidature.
Vous rejetez quoi?
Votre candidature, au suivant. J'ai reçu un CV anonyme. Alors, je veux pas être accusé de discrimination à l'embauche, évidemment. Alors, venez, monsieur, ça va?
Mais bien.
Ah, j'entends un léger accent.
Mais il comprend pas le français.
Garcimore. Oh,
formidable.
Je vous ai reconnu.
Ne vous énervez pas, s'il vous plaît.
Non, mais je m'énerve pas. Mais bon, c'est pas sérieux comme candidature. On cherche quelqu'un de sérieux.
De contrasté.
Voilà, la porte est là-haut. Hein. Ouais. Je pense qu'il nous faudra un écrivain.
Ouais, c'est
enfin, c'est assez logique. Ouais, on n'est pas couché, moi, que c'est écrivain, futur chroniqueur, écrivain. Alors évidemment, j'ai reçu plein de postulations d'auteurs. Ceci est pas mal. J'arrive pas bien à lire le nom, par contre.
Romain Gary.
Romain Gary, voilà, bonjour. Retracez votre parcours professionnel, s'il vous plaît.
Je passe sur les métiers que j'ai faits
dans la préhistoire, dans ma préhistoire, pour survivre, parce que je suis d'un milieu extrêmement pauvre. Mais j'ai été 9 ans aviateur. Je me suis engagé dans l'aviation à l'âge de 23 ans. Je suis resté aviateur 9 ans, aviateur de carrière.
Voilà, c'est bon. Question qu'on aime bien poser hein, quand on recrute. Je suis assez spécialiste. Si vous étiez un animal, vous seriez...
Caméléon. Vous savez que le caméléon prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve pour se protéger. Eh bien, on met le caméléon sur un tapis rouge, il devient rouge. On le met sur un tapis vert, il devient vert.
Écoutez, Romain Garis, on a compris, on reste en contact, on vous rappelle. Nouveau dossier, prénom, Lino, nom de famille Ventura, ben oui, on vous connaît Lino Ventura. Vous postulez à On n'est pas couché, est-ce que vous êtes suffisamment motivé?
Suffisamment.
Oui, mais il faut de la discipline, hein. Présence indispensable chaque semaine.
Présence indispensable.
Oui, présence indispensable.
Présence indispensable.
Oui, présence indispensable. puis vous êtes un sanguin avec Christine Angot, ça risque d'être assez volcanique. Comment vous la calmeriez, par exemple, si elle s'emportait?
La chère Amiens, ça a toujours été ton truc à toi.
Je suis pas sûr. Là.
Ça fait quand même une surprise.
Ouais, ça fait une surprise, mais je sais pas si c'est efficace. Pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un autre? Enfin, est-ce que vous êtes capable de résister à la pression? Parce qu'il y a pas mal de pression dans ce job. Et puis aussi, dites-moi en 10 points, quels seraient vos points forts et vos points faibles?
Je voudrais pas te paraître piégé ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire. Tu commences à me les briser.
D'accord, on le prend.
Il est bien là.
On le prend. Il est bien. Vous êtes engagé, Lino Ventura, merci.
Excellente idée, Christine Gonzalez. Merci beaucoup, Christine Gonzalez de la RTS, la radio-télévision suisse romande. Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Mérian et nous allons aborder ce deuxième sujet avec vous, Daniel. Quand les politiques proposent des lois, parfois sous le coup de l'émotion ou d'un petit coup de pression de l'opinion, c'est là que l'avocat, souvent médiatique, entre en jeu pour remettre le droit au milieu du village et veiller notamment à l'atteinte des libertés, exemple l'état d'urgence ou les risques de délation de Balance ton port, etc. Dans la vie publique, l'avocat est celui qui doit garder la tête froide, faire fi de l'émotion collective et individuelle.
Ah, Dieu me tripote, quel émoi m'habite. L'émotion m'étreint, l'angoisse m'égare, ma voix s'éraille.
Ah oui.
Oui, française, chers amis de Château Chinon, c'est un homme brisé par l'émotion qui s'adresse à vous aujourd'hui. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous demanderai exceptionnellement de ne voir sous la robe austère de la justice que le cœur d'un homme comme les autres. Un cœur tendu vers vous et qui tambourine fébrilement entre ces deux ventricules, comme n'importe quoi qui tambourinerait fébrilement entre deux machins.
Le réquisitoire de Pierre Desproges dans le tribunal des flagrants délires sur cette antenne. Celui-là était consacré à Coluche. C'est un article paru dans Le Point qui est intitulé « Politique et ses avocats qui relèvent le niveau ». Bon, on peut penser ce qu'on pense de l'article du Point, mais il a le mérite de poser cette question du rôle de l'avocat quand il prend la parole de façon médiatique et que le politique propose des lois. Est-ce que là, vous trouvez que le politique il tient compte des principes élémentaires du droit généralement, quand il réagit, ou est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il s'assied dessus?
Le politique, il ne sait pas grand-chose. Il est très prétentieux. Dès qu'il y a un fait divers, on a une nouvelle loi pénale, ce qui est une aberration, puisque tout est dans le code pénal et qu'on n'a pas besoin de le modifier. Et nos codes sont de plus en plus épais, sont extrêmement mal écrits. Après la loi, on attend un décret d'application. La plupart des lois n'ont pas leur décret d'application. Si j'étais grossière, je dirais que tout ça est un bordel.
Mais comme vous ne l'êtes pas.
Effectivement. Donc, face à cela, est-ce que l'avocat qui a ses entrées dans les médias peut venir remettre le droit au milieu du village, garder la tête froide et dire... Peut-être que cette proposition est un peu populiste, qu'elle vient flatter l'opinion et qu'elle ne se fait pas. C'est important qu'il y ait un équilibrage. L'avocat, il a un rôle dans la société.
Tant mieux si l'avocat peut, dans les médias, dire des choses un petit peu raisonnables. Mais moi, je ne vois pas comment je pourrais, devant les populismes, avoir la moindre influence. Malheureusement.
Vous qui l'avez été, qu'est-ce qu'on pense quand on est avocat des quelques avocats qu'on voit tout le temps sur les plateaux et qui sont censés représenter la profession?
on ne voit sur les plateaux que les avocats pénalistes. Je n'ai jamais eu d'article dans les journaux que parce que j'avais plaidé. Comme je suis civiliste et non pas pénaliste, je n'ai jamais été aux assises que comme partie civile, ce qui n'est pas une position du tout agréable, puisqu'un avocat préfère la défense à une autre forme d'accusation qu'est la partie civile. Et j'ai plaidé des affaires extrêmement intéressantes dont on n'a pas parlé parce que ce n'était pas un crime de sang et que les médias, malheureusement, s'intéressent plutôt aux crimes de sang qu'à des choses beaucoup plus importantes.
Juliette ?
Comme par exemple le droit de la santé.
Y a quand même pas mal de membres de la classe politique, il me semble, française, qui sont avocats de formation.
Oui. Et puis quand... ils sont virés de la politique, ils se réinscrivent au barreau. Malheureusement, l'ordre des avocats de Paris les reprend, alors qu'ils sont totalement incompétents. Mais ils ont un énorme carnet d'adresses. Donc, dans le gros cabinet qui va les embaucher, eh bien, on pourra faire des conflits d'intérêts en veux-tu, en voilà.
Daniel Mérian avec nous. Et à vos côtés, Daniel, vous qui aimez beaucoup la littérature, je crois que vous avez déjà regardé la couverture du livre dont va nous parler
oui,
Juliette
Armand. Je vais le lire maintenant.
J'espère bien, je vous le donnerai d'ailleurs en sortant.
C'est gentil.
Alors donc, coup sur coup, Tom Wolfe est mort, Philip Roth aussi, j'ai la tristesse. Alors j'en profite pour lui dire un mot à Philippe. Merci Philippe. Ce que j'ai compris des hommes, de leur sexualité, de leur désir, c'est grâce à toi. Et c'est pas beaucoup ce que j'ai compris au vu de ma réussie vie amoureuse. Et j'ai pas su l'utiliser, pas plus contre eux que pour moi, mais j'ai bien ri et c'est déjà pas mal. Heureusement, dans le même temps, les éditions du Sous-sol viennent d'avoir la riche idée de republier et de retraduire Le Monde selon Barnet de Mordecai Richler. Alors Mordecai Richler, c'est la même génération que les deux autres, Tom Wolfe et Philip Roth, c'est-à-dire c'est des gens qui sont nés au début des années 30. Mais lui, Mordecai, il est de Montréal, il est juif, comme Philip Roth. Il a été taxé d'antisémitisme par certains membres de sa congrégation, on va dire. Et Le Monde selon Barnet, c'est un bon gros roman comme ceux qu'aimait pondre Tom Wolfe. Alors, Philip Roth avait cessé d'écrire depuis un moment déjà. Il était devenu un trop vieux monsieur. Il estimait qu'il avait fait le tour. Barnet, le personnage donc du livre, Le Monde selon Barnet, c'est le personnage de Mordecai, lui n'a jamais écrit. C'est pas son métier ou sa formation. Et il se décide à écrire alors qu'il est devenu un très vieux monsieur, que sa première femme s'est suicidée, qu'il a réussi à quitter la seconde et que la troisième l'a vraiment aimé, adoré, chéri, mère de ses trois mômes, devenu adulte. Celle-là même, de guerre lasse, s'est barrée avec un autre. Un plus jeune de 10 ans et que... Barnet décrit ainsi, grand, blond, avec de larges épaules et des yeux bleus. Bref, il aurait été parfait en uniforme de SS. Barnet n'est pas au top. Vous allez me dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour se mettre à écrire. La condition suffisante pour se mettre à écrire, c'est qu'un autre écrivain de métier, lui nommé Terry McIver, va publier une autobiographie. Les deux, Barnet et Terry, ont vécu dans le Paris des années 50, avant que Terry devienne écrivain, avant que Barnet devienne riche en produisant des inepties pour la télévision, nom de sa boîte de prod, les productions totalement inutiles. Et McIver va dire des choses dans son autobiographie sur Barnet que Barnet réfute absolument. Bon, alors c'est des choses assez graves, Il va écrire notamment que Barnet a assassiné son meilleur ami, Boogie, et conduit sa première femme au suicide. Ah oui, quand même, c'est pas de la révélation papier crépon. C'est deux questions qui t'attrapent dès le début en tant que lecteur. Est-ce que oui ou non Barnet a assassiné Boogie ? Et pourquoi Myriam, la troisième femme, s'est-elle enfuie avec le SS ? Enfin, le SS, qui aurait été parfait en costume de SS. En tant que lecteur, tu te dis qu'à la fin, tu sauras qu'il n'y aura pas de vérité relative. Oui, parce que Barnet attaque fort, Il veut avec ce livre dire la vérité, il écrit « Je suis résolu à me montrer juste, un témoin sincère » et plus loin il dit même « Je suis prêt à jurer que tout ce qui suit est vrai, je suis innocent, sincèrement, j'en fais le serment devant Dieu comme on dit ». Enfin bon, on les connaît les écrivains, surtout ceux qui jurent d'écrire la vérité. Barnet aussi, c'est très bien ça puisqu'il était parti à Paris pour fréquenter les écrivains qu'il appelle des cœurs purs, les législateurs secrets du monde, et il en est revenu, décidé à fuir comme la peste les écrivains. Alors à présent que moi, j'ai lu les 500 pages du Monde selon Barnet, je sais la vérité. Enfin, je crois savoir. Enfin, non, j'ai décidé que Barnet, c'est lui que je crois. Pourquoi ? Ben pour la seule raison valable à mes yeux de lectrice, parce que c'est lui qui raconte les meilleures histoires, qu'emprime il le fait avec hargne, avec humour, et avec la conviction que l'absurdité guide les êtres humains. Parce qu'également, Barnet, cet ivrogne, a une bien jolie devise mondaine, que je connais malheureusement trop bien, sortir, trop boire et insulter tout le monde. Mordecai Richler, c'est l'auteur, et Le Monde selon Barnet, c'est son dernier livre, figurez-vous. Il a tiré sa révérence littéraire avec une fausse autobiographie. La vérité vraie, en fait, ben on s'en fout pas mal. On se réjouit, on jubile, et puis on pense au revoir Barnet, au revoir Mordecai, au revoir Philippe, et puis merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, et les éditions ?
Alors, c'est les éditions du Sous-Sol, c'est vraiment une magnifique maison d'édition, et c'est Mordecai Richler, Le Monde selon Barnet.
Merci Juliette. Et je rappelle que Daniel Merian, vous avez aussi un livre, publié un livre en 2016, avec Tania de Montaigne, Nous n'avons pas fini de nous aimer, qui raconte notamment votre vie, si je ne m'abuse. Et lors de cette rencontre intitulée « Autoportrait d'une féminitante », rencontre avec Daniel Merian, vous pourrez voir et écouter Daniel Merian au Sentier des Halles à Paris le 15 juin à 21h15.
Est-ce que Éric Zemmour est le bienvenu ? Parce que je pense que ça lui fait pas mal de bien de venir vous écouter un petit peu.
Je ne sais pas si Soizig va
votre attaché de presse.
Allez, c'est deux places, Éric. C'est bon. Tu peux venir.
Dites donc. Allez, et puis il ira voir Rukata aussi, puis comme ça fera le... Ça fera le combo. Slate.fr s'est fendu d'un article intitulé « Pourquoi déteste-t-on les vieilles ?» C'est un article qui fait partie d'une série pour déconstruire les préjugés sur les fonctionnaires, les roues, les punks. Bon. Dans le fond, on est toujours le vieux de quelqu'un, mais ce que souligne l'article, c'est que la femme âgée subit davantage le préjugé que l'homme plus âgé. Démonstration.
Bonjour maman. Dis bonjour à ta grand-mère Léo.
Bonjour.
Bonjour qui ?
Mamie.
Je veux pas qu'il m'appelle comme ça.
Tu veux qu'il t'appelle comment ?
Je préfère qu'il m'appelle pas. À quelle heure tu m'en débarrasses ?
Mon patron m'a demandé de faire des heures sup, je pouvais pas.
À
faire...
quelle heure ?
Vers 5 heures.
Pourquoi tu m'aimes pas, mamie ?
Parce que t'es noire.
C'est Bernadette Lafont dans Colette, film de Michel Ochevia. Daniel Merian, on se posait la question en voyant cet article. Et l'article, évidemment, a un titre provocateur, souligne que ce préjugé que certains auraient en disant oh, elle est plus âgée donc elle est chiante, il est davantage tenace pour les femmes que pour les hommes.
C'est la continuation de la domination masculine. Sois jeune et jolie et tais-toi.
Ouais.
Bon, ça a marché. Très, très, très longtemps. Alors, bon, moi, je trouve que c'est formidable de vieillir, non pas d'avoir des rides, mais comme on travaille, comme on lit, comme on apprend, comme on rencontre tous les jours. J'ai le sentiment d'être moins bête que lorsque je suis née. J'ai le sentiment que je m'humanise et je suis donc ravie d'avoir l'âge que j'ai.
Moi, quand je voudrais être plus grande, je voudrais être Daniel Merian. Il y a aussi ce mot, justement, je profite que Rukata Ouedraogo soit là. Dans nos sociétés, vieille est un mot un peu péjoratif, alors que là, vous lui redonnez tout un sens positif, c'est vrai. Et les Africains, chez vous, c'est extrêmement valorisant.
Ah, effectivement, chez nous, le vieux, c'est le sage.
Voilà.
C'est celle qui passe, les grandes mères chez nous, c'est celle qui passe l'histoire, qui apprennent nos enfants. Donc, tous les soirs, les enfants se réunissent après le repas autour de grand-maman pour qu'elle raconte des histoires, et c'est comme ça qu'elle transmet aussi aux enfants, et c'est très important. Et malheureusement, avec la modernité, les enfants sont maintenant devant les télévisions, devant les, voilà, les réseaux sociaux, et voilà, et on perd un peu de ça, et c'est un peu dommage. Et non, il faut valoriser nos grandes-mères, et maintenant, il faut les aimer, parce qu'elles sont...
C'est vrai.
Mon rêve est arrière-grand-mère.
Oui. Ah, oui. Vous qui fréquentez, par exemple, ces femmes-là que vous rencontrez concernant l'excision.
Elles ont un immense respect pour les personnes âgées, de par leur culture, bien sûr.
C'est vrai qu'on vous a beaucoup appelé la grand-mère des Français.
Oui, j'ai pas beaucoup apprécié.
Mais c'est vrai, j'ai bien compris qu'un grand-mère voulait être, mais dans l'intimité, déjà.
Mes amis me disaient, on t'a jamais vu en grand-mère, même si mes amis savent que je suis une grand-mère.
Justement, il y a cette histoire de grand-mère, mais je suis bien sûre que vous avez reçu également une tonne de courriers... d'hommes tout à fait disposés à dîner avec vous. Dites franchement, attention.
Non.
J'y crois pas qu'à
tout. Vous continuerez la discussion avec Daniel Merian qui est entré dans ce studio.
Eh bien, c'est pas de chance parce qu'on aurait tous aimé savoir, mais c'est l'heure de Frédéric Fromet qui est derrière vous, Daniel.
Bonsoir.
Il vient nous chanter l'actualité chaque vendredi. De quoi allez-vous nous chanter cette semaine ?
Eh bien, j'ai pris la plume pour vous parler des poules, des jeunes poules.
Vrati pas qu'un brave gars, genre FNSEA. Passionné par les grillages, mis toutes ses poules en cage. Les cocottes emprisonnées, entassées par milliers. Ne voyaient jamais le ciel, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Il faut qu'elle, coûte que coûte, pondent et puis c'est tout. Pom pou poule, pom pou poule, pom. En faisant cote-codec, quand je te coupe le bec. Pom pou poule, pom pou poule, pom. Le trou du cul bouché, y'a plus qu'à zigouiller. Si avec ça je passe pas chez Didier Varro dans Poule Sentimentale. Vlati pas qu'on conseille que les poules voient le soleil. Vlati pas que les gallinacées devraient faire des UV. On verra ça évidemment quand elles auront des dents. À tous les amis des bêtes qui trouvent que c'est pas cool, on ne fait pas d'omelette sans casser des poules. Pom pou poule, pom pou poule, pom. Sur un format A4, je te casse les pattes. Pom pou poule, pom pou poule, pom. Les plumes arrachées, l'œuf devrait mieux passer. Je vise soit Poule Sentimentale, soit le cloaque et la plume. Vlati pas que ça piaille pour défendre la volaille. Y'a pas de quoi se rendre ma boule, ce ne sont que des poules. Rien que des poules dans du purin, comme les vieux dans les EHPAD. Il manquerait plus qu'on prenne soin des plus vulnérables. Restons cool, y'a pas de quoi alerter Interpool. Pom pou poule, pom pou poule, pom. Vois-tu, c'est pour ton bien que je broie tes poussins. Pom pou poule, pom pou poule, pom. Où je te coupe la tête pour y faire des mouillettes. Les têtes d'œufs et les starlettes, faut bien que ça caquette. Que ça nous dise, j'ai les boules, la bouche en cul de poule. On n'attend plus que la pensée de Poule McCartney. Une vidéo choc avec Yves Lecoq. Et le fameux coup de pouce de Laurent de la Glousse. Pom pom poule, pom pom poule, pom. Fais-moi des beaux cocos ou je te brise les os. Poule, pom pom poule, pom. Tu peux toujours gueuler, je crains pas me faire embarquer par un quart de poulet.
Wow.
Merci Frédéric Promet.
Il faut dire à l'auditeur que les bruitages de poules ont été faits de façon artisanale. Parce que c'était tellement bien fait qu'on pourrait croire. Et si vous voulez voir plus de Frédéric Promet, c'est sa dernière à Paris dimanche, la Comédie de Paris.
Merci. Merci. Daniel Merrion, je sais que vous aimez la satire. Vos engagements, tout ça.
Oui.
Oui.
Bien sûr. Le rire est le propre de l'homme.
Et oui, oui, oui. Et pour revenir une minute avant...
Il faut souvent s'empresser d'en rire pour ne point en pleurer.
Oui, effectivement. Votre engagement, vous êtes rendu compte très tôt, vous vouliez être engagé au service de pas mal de combats. C'est avocate que vous avez choisi. Aujourd'hui, c'est toujours un excellent moyen.
Je suis révoltée depuis que je suis née, puisque dans ma famille normale et classique, on préférait les garçons aux filles. Donc, haute comme ça, je me disais, je suis dans un monde de fous, il va falloir tout changer. Ensuite, de quoi je rencontre, comme vous l'avez dit, ce choc à 7 ans de découvrir les camps de concentration. Donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait changer le monde. Mmh. Et donc, ce n'est pas tellement étonnant que je sois devenue avocate et que j'ai le goût de défendre les plus faibles. Les plus faibles, aujourd'hui, pour moi, ce sont ces jeunes réfugiés musulmanes qui ont fui l'excision et le mariage forcé. Et donc, voilà.
Et vous continuez votre
engagement. J'ai établi un grand programme en Afrique que j'espère pouvoir réaliser si j'arrive à obtenir que quelqu'un me paye mes 10 school bus. Parce que pour le moment...
Alors, on va renvoyer donc vers SOS Femmes Africaines en Danger, l'association que préside Daniel Merrion. Et je rappelle que vous êtes au Sentier des Halles le 15 juin à 21h15.